En fait, quand j'ai commencé, je me suis dit Star Trek et les mondes possibles, on commence par où? Hein? C'est vague et c'est vaste comme sujet. Et je suis contente que Laurence ait fait un peu plus d'analyse du contenu lui-même des épisodes parce que moi, je vais prendre un gros step back et je vais parler vraiment de la sérialité au niveau macro. Parce qu'au départ, en fait, je voulais m'en tenir à penser la cohérence interne du monde fictionnel, mais je me suis rendu compte rapidement que de penser la cohérence du monde interne sous-entend qu'un agent externe, donc un spectateur dans notre cas, va être en mesure de produire du sens de tous ces éléments fictionnels-là. Dans Star Trek, toute la complexité de son univers diégétique, en fait, se complexifie encore plus quand on pense à la manière dont il va être reçu et consommé par les fans. Non seulement les séries ne sont pas produites en ordre chronologique et viennent toujours combler des fragments d'incomplétude de l'univers, mais les fans ne le consomment plus non plus aujourd'hui de manière chronologique. Ça a peut-être été le cas il y a quelques 50 années au début de la série, alors que les fans étaient contraints par les limites de diffusion de la diffusion télévisuelle de la série originale, mais à ce jour, puis on le constate énormément en travaillant sur les émissions, la série d'émissions sur Star Trek du podcast Pop en Stock, la consommation se fait de manière un peu chaotique. Les portes d'entrée de l'univers sont multiples. Personnellement, moi, je les ai écoutées dans leur ordre de diffusion, mais on peut très bien commencer par n'importe quelle série, les écouter dans le désordre, les mélanger, choisir des épisodes en particulier, comme tu as dit, tu en as pris 33, on peut juste écouter les épisodes thématiques. Comment est-ce qu'on peut penser la production de savoir dans un contexte sériel où la réception par le spectateur est aussi multiforme? Donc, une théorie des mondes possibles de Star Trek devrait être en mesure de tenir compte de ces trois questions-là. Donc, comment l'univers est-il construit, considérant à la fois le mode de production sériel et la cohérence interne de l'univers fictionnel? Comment est-ce qu'il peut être appréhendé par un spectateur? Et comment est-ce que ce spectateur-là peut rendre compte du contenu, des connaissances quant au monde fictionnel qui est consommé de manière sérielle? Naturellement, on l'a vu avec la présentation de Martha Bonney un peu plus tôt, penser les séries de manière spatiale ou en termes de monde, c'est rien de nouveau. Mais je vais limiter à mon approche seulement à la cohérence interne du savoir lié au monde fictionnel et aux façons dont on peut appréhender ce savoir-là. Donc, tout ce qui est fanfiction, contenu non canonique, ne m'intéressera pas aujourd'hui. Et je vais passer rapidement sur beaucoup de notions théoriques qui sont nécessaires à bien comprendre ces systèmes de mondes possibles-là qui s'articulent ensemble. Donc, les bases de la théorie des mondes possibles, tout d'abord. En fait, c'est une idée qui a été posée par Leibniz dans sa Théodicée pour parler de la totalité des mondes qui pourraient être imaginés par un être divin. Donc, c'est d'abord une doctrine métaphysique. Cette théorie-là a été très librement reprise plusieurs centaines d'années plus tard par le logicien Sal Kripke pour rendre compte des conditions de vérité des énoncés propositionnels contrefactuels en logique modale. Si vous n'êtes pas familier avec la logique, ça peut avoir l'air un peu compliqué dit comme ça, mais c'est super simple. C'est juste des énoncés de la forme si A, alors B. Le concept a été repris par certains narratologues, dont Marie-Laure Ryan, Delogel, Pavel, et ils vont l'appliquer à deux théories principales, c'est-à-dire les théories de la fiction et la description sémantique des mondes narratifs qui sont fictionnels ou non. On s'en sert notamment pour penser les questions de vérité dans les mondes littéraires, pour penser à la nature des mondes fictionnels et pour comprendre les relations qui existent entre les mondes fictionnels et notre réalité. Donc, dans une... Oh mon Dieu, excusez-moi, je clique sur les trucs. Ah, OK. Dans une perspective logique et narratologique également, la théorie des mondes possibles postule que la réalité, conçue comme étant la somme de ce qui est imaginable plutôt que la somme de ce qui existe physiquement, est un univers composé d'une pluralité de mondes distincts. Ça, c'est une traduction très libre de ce qu'il y a à l'écran en ce moment, où chacun des énoncés propositionnels forme un monde possible alternatif qu'il serait en théorie possible d'étudier. La théorie des mondes possibles fictionnels d'Umberto Eco vient ajouter une couche de complexité à cette théorie-là, et donc je passe vraiment trop rapidement là-dessus pour aller vers les concepts théoriques qui sont essentiels à mon analyse, mais ce qui est intéressant avec son approche, c'est l'ajout de la notion de sous-monde qui permet de complexifier un peu l'idée des mondes possibles. Eco va définir les mondes possibles fictionnels comme un univers composé d'une constellation de mondes, et donc le texte littéraire n'est pas un monde possible, mais bien une machine à produire des mondes possibles. Et donc, au sein de cette machine-là, peuvent être produits une panoplie de sous-mondes, et c'est précisément cette idée-là de sous-monde qui est pertinente pour penser notre objet. Ce que ça permet, en fait, c'est d'inscrire des mondes au sein d'autres mondes, et donc de penser le monde possible fictionnel comme étant un univers au sein duquel s'inscrivent d'autres sous-mondes, et donc d'être en mesure d'insérer ou d'imbriquer des sous-mondes à part entière ou de les subsumer sous un monde plus large. dans le contexte sériel de Star Trek, où tous les éléments de la franchise vont s'insérer sur la sous la bannière de Star Trek, l'idée de tout le monde va être centrale à mon analyse. Et donc, tous ces beaux mondes-là et ces sous-mondes-là sont liés par ce que Kripke nomme une relation d'accessibilité. Donc, dans son ouvrage « Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory », Marie-Laure Ryan va expliciter cette idée-là en soulignant que la possibilité est synonyme d'accessibilité. Donc, un monde possible peut être pensé s'il peut être accessible, d'une manière ou d'une autre, par le monde qui se trouve au centre de notre système de monde. Et donc, si on reprend le joli graphique qu'il y a à l'écran en ce moment, chaque flèche vers un monde possible alternatif représente une relation d'accessibilité. Dans notre cas, ici, il va s'agir d'énoncés propositionnels, mais la relation pourrait être tout aussi bien d'autres choses. Et c'est là véritablement que la théorie des mondes possibles commence à devenir intéressante pour penser un univers comme celui de Star Trek. Comment est-ce qu'on peut penser l'univers, ses mondes et ses sous-mondes, mais surtout leurs relations entre eux? Qu'est-ce qui lie ces mondes-là entre eux? Et c'est là qu'on arrive à Star Trek. Le plus difficile quand on a un univers aussi foisonnant que celui de Star Trek, c'est de délimiter ce qui est canon et ce qui est non-canon. Notamment parce qu'il est difficile véritablement de délimiter ou de baliser le monde fictionnel et ce qui appartient, mais aussi parce que, comme le souligne Heather Urbanski, le savoir canonique est généralement cumulatif au fil de l'expérience fictionnelle et ses frontières sont relativement poreuses. Ça se complexifie encore plus quand c'est un univers de science-fiction où il est tout à fait plausible de dire qu'on a un univers A et un univers B et que les deux sont canons et qu'on ne se pose pas de questions à ce sujet-là. Pour les biens de mon analyse, je vais privilégier un point de vue autorial élargi, ou comme le disait Martha plutôt, un point de vue d'un démiurge, c'est-à-dire que je vais uniquement considérer le contenu qui a été officiellement désigné comme faisant partie du monde canonique par les équipes de création, de production, de diffusion qui sont directement associées à la franchise Star Trek comme composant l'univers canonique. Donc, naturellement, on perd un nombre incalculable de détails quant à cet univers-là, qui est largement peuplé par les fans, mais ça nous permet de reconstruire l'univers canonique de Star Trek aux 7 séries et aux 13 films, ce qui représente déjà une quantité assez impressionnante de matériel qui appartient officiellement au monde textuel actuel. Là où je pense que cette approche autoriale a des limites, c'est lorsque les entités officielles brisent la cohérence interne du monde et vont contrevenir aux principes de non-contradiction et de tiers exclus, qui sont des principes fondamentaux en logique. Et donc, si les interventions des fans peuvent permettre d'expliquer ou de rectifier une irrégularité ontologique qui contreviendrait à ces principes-là, et que cette justification-là est généralement acceptée comme étant vraie au sein du monde fictionnel, je l'accepte dans ma définition du canon sans problème. Maintenant que toutes ces considérations de définition sont passées, on peut affirmer que le système de monde possible au niveau macro, très 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 macro, auquel on a affaire dans le cas de Star Trek, ressemble à ça. Donc, au centre du monde, on a le monde actuel, c'est-à-dire celui qu'on est tous en train d'actualiser en ce moment. Et d'un côté, on a les éléments qui relèvent du canon, qu'on a défini, et qui composent l'univers A. De l'autre côté, on a tout ce qui relève pas du canon, qui est non-canon, qui compose l'univers B. Et bon, on peut inclure les fanfictions, slash-fiction, théories de femmes, romans publiés qui ne sont pas officiellement canoniques, etc. Comme on accepte de se dégager de l'univers B pour se concentrer sur les éléments canoniques, on va recentrer notre centre d'actualisation du point de vue de l'univers canonique. Donc, on se retrouve avec le monde canonique devant nous, qui est un gros cercle jaune. Et maintenant, c'est là que les véritables réflexions peuvent commencer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut cartographier cet univers-là et dégager la manière dont le savoir peut être appréhendé. Essentiellement, ce large univers de savoir canonique doit contenir deux sous-univers. Donc, l'univers prime, qui est celui au sein duquel se déroulent les événements des 7 séries et des 10 premiers films. Et d'un autre côté, on va retrouver également le sous-univers du reboot, qui est lié à l'univers prime par une relation d'accessibilité qui repose sur un énoncé propositionnel qui est « Si le père de Kirk était décédé, alors… » trois petits points. Et les films du reboot répondent un peu à ce « alors ». Donc, je vais le laisser en suspens si ça vous tente d'aller les écouter. Donc oui, ça c'est la relation d'accessibilité, pardon, j'ai mis une animation de plus que ce que je pensais. Donc je propose qu'on se concentre sur l'univers A, pas parce qu'il n'est pas intéressant de parler de l'univers alternatif, mais surtout parce que c'est là où l'acquisition de connaissances à propos de l'univers est le plus complexe. Et donc à partir de maintenant, je ne vais pas remettre le cercle jaune qui représente l'ensemble des univers canoniques prime, mais vous pouvez imaginer que tout ce qu'on fait et tous mes beaux graphiques qui suivent vont s'insérer à l'intérieur du cercle jaune. Autre précision, juste pour essayer d'avoir un peu plus de clarté, je vais réduire les 10 films aux séries après lesquelles ils s'insèrent ou qu'ils prolongent. Donc, les films 1 à 6 sont du côté de la série originale et les films 7 à 10, je vais les inclure dans The Next Generation, même si les fans me diraient que les films 6 et 7 sont un peu des crossovers entre les deux séries, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était super clair pour le moment. Et donc, les particularités des éléments qui composent l'univers de Star Trek, c'est que chacune des 7 séries et, jusqu'à un certain point, les films qui s'insèrent dans chacune des séries peuvent être perçus comme étant des stand-alone, c'est-à-dire qu'ils peuvent être visionnés indépendamment les uns des autres. Un spectateur peut tout à fait écouter seulement The Next Generation sans jamais avoir entendu parler de Spock, Kirk et McCoy, qui sont tous des personnages de la série originale. Au pire du pire, il risque de ne pas comprendre quelques références à ces personnes-là qui sont un peu des légendes au sein de l'univers, mais ça n'affecte pas la compréhension générale ou l'appréciation potentielle de la série. Donc, en étirant même un peu les choses, même la plupart des épisodes de chacune des séries classiques, donc j'ai exclu Enterprise et Discovery, peuvent être appréciés indépendamment des autres. Pour Enterprise et Discovery, bon, il adopte une structure de storytelling qui est un peu plus proche de la forme sérielle moderne, mais on peut dire qu'en large partie, même au sein des séries de Star Trek, la plupart du contenu peut être apprécié ou compris sans une assiduité ou une écoute extensive, en fait, plutôt, de l'objet. Et c'est justement ce qui représente un défi ici, c'est-à-dire qu'on doit trouver un modèle qui explique que l'univers de Star Trek peut être compris et donc on peut acquérir des connaissances à propos de cet univers-là en naviguant librement à travers les itérations sérielles. Pour être capable de les organiser en forme et de former un système cohérent visuellement, donc je vais organiser chacune des séries en des sous-mondes distincts. Donc, vous allez le voir, je vais le montrer un peu plus tôt. La première manière dont on peut penser la cartographie de l'univers de Star Trek, c'est en fonction d'une chronologie diégétique des éléments. La relation d'accessibilité qui va lier ces sous-mondes-là, en ce sens, c'est donc une toute simple relation de temporalité. Donc, on le voit avec la flèche. Si on se place sur une ligne du temps, on aurait Star Trek The Original Series, dont les événements commencent en 2265. Ensuite, la série animée qui débute 3 ans plus tard. Une centaine d'années plus tard, voilà, on a The Next Generation. Puis, à quelques années d'écart, les séries Deep Space Nine et Voyager qui se chevauchent un peu aux alentours de 2369 et 2371. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que les deux séries les plus récentes dans la chronologie de diffusion, c'est-à-dire Enterprise et Discovery, sont des prequels et donc vont s'insérer avant les débuts de la série originale. En ce sens-là, ces séries viennent essentiellement combler des zones d'incomplétude que j'ai mentionnées un peu précédemment, qui est un concept de Ingarden. Elles viennent meubler des zones de l'univers de savoir qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Et le modèle chronologique que je présente ici ne permet pas de penser un ajout d'éléments a posteriori. Un second problème avec cette première disposition géographique-là, c'est qu'elle permet, en fait, elle ne nous permet pas d'apprendre sur la manière dont le savoir se communique ou peut se joindre d'une série à l'autre. C'est-à-dire que les différents éléments sériels pourraient aussi bien avoir des frontières qui sont totalement étanches, être consommées totalement indépendamment les uns des autres. Puis, il est difficile d'expliquer la manière dont les éléments de Deep Space Nine sont liés à ceux de la série originale, par exemple, outre que par la relation temporelle qui indique que l'un se déroule avant l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut, avec une relation temporelle, expliquer des épisodes comme The Trouble with Tribbles, où les personnages de Deep Space Nine voyagent littéralement dans la temporalité The Original Series. Ma proposition, qui est encore en réflexion, donc je suis très ouverte aux suggestions et aux discussions après la présentation, est la suivante. Donc, dans le cas d'un univers aussi complexe que Star Trek, il vaudrait mieux penser les séries comme étant des sous-mondes dont les frontières sont poreuses, et se concentrer plutôt sur les multiples relations d'accessibilité entre ces sous-mondes-là. Donc, plutôt de penser les sous-mondes eux-mêmes, ce qui est central à mon avis, et de penser les différentes manières dont ces mondes-là sont accessibles entre eux. Ça a l'air de ça. C'est un peu intense. Ces relations-là sont un ensemble d'éléments. Donc, on peut avoir soit des crossovers qui sont très, très clairs, jusqu'aux mentions d'événements historiques, l'utilisation des langues, jusqu'aux races extraterrestres qui sont représentées. La relation d'accessibilité prend des formes multiples. La relation la plus évidente dont on pourrait parler comme exemple serait les Klingons, dont le physique change radicalement d'une série à l'autre. Si on pense les séries comme de manière chronologique, il est clair qu'on va voir les inconsistances comme des erreurs ou des contradictions. Mais en le voyant plutôt comme un réseau de relations qui s'affectent mutuellement, on vient flexibiliser en quelque sorte l'acquisition de connaissances quant à cette race. Les Klingons deviennent ici une idée ou un concept que l'on intègre à une xéno-encyclopédie générale, dont les limites ne sont pas celles de la série elle-même. Le concept lui-même est sériel, se mute, se modifie, se complexifie au fil des expériences de visionnement du spectateur, peu importe l'ordre de visionnement ou la chronologie interne de l'univers. Et donc, les relations d'accessibilité sont ici un véritable chantier de connaissances. On peut y penser comme une forme de réseau ou de toile également, mais l'essentiel est de recentrer la notion d'acquisition de connaissances sur ces relations-là, car ce sont à travers celles-ci que le spectateur va bâtir sa propre xéno-encyclopédie dans ses propres termes. Si on pense les relations d'accessibilité intra-sérielles de Star Trek, on aurait plutôt cette cartographie-là, qui est un peu maladroite, puis il faudrait clairement retravailler les relations d'accessibilité pour avoir un peu plus de précision et représenter de manière adéquate les relations véritables entre chacun des sous-mondes. Mais l'essentiel, c'est que cette manière d'illustrer ou d'essayer de comprendre les divers chemins qu'on peut prendre en tant que spectateur pour acquérir un certain savoir sur l'univers dans son ensemble sont multiples et sont valables. Plutôt que de mettre l'accent sur un parcours en particulier qui garantirait une acquisition de savoir qui est optimale, l'approche par chantier permet de sortir des séries elles-mêmes et des éléments qu'elles contiennent et de les voir en fait comme un ensemble complexe de liens qui sont tissés entre les différentes composantes sérielles. L'ensemble des éléments qui existent dans l'univers doivent être compris en fonction de ces relations-là et non pas en fonction d'un parcours idéal ou d'une chronologie diégétique de diffusion. Elle permet aussi la révision ou l'ajout de savoir afin de peupler les zones d'incomplétude qui sont fondamentales au monde fictionnel, sans toutefois altérer ou appauvrir la xéno-encyclopédie du spectateur en cours de route. Le monde fictionnel étant fondamentalement incomplet, la xéno-encyclopédie de tout spectateur va être aussi, elle, être incomplète tout au long de son apprentissage. Même si on s'attarde aux relations d'accessibilité, le retour en arrière, la réécriture et... l'ajout de données qui viennent préciser l'univers sont tout à fait compatibles avec ce type de relation-là. Et surtout, la possibilité pour le spectateur de naviguer librement ces éléments sériels-là en utilisant les relations d'accessibilité comme point d'ancrage du développement de leur savoir est aussi possible. Ce que l'approche permet aussi, c'est de se défaire de la chronologie comme manière de valider le savoir acquis. Après avoir suivi les aventures de James T. Kirk et de ses équipiers, ne permet pas nécessairement d'avoir une meilleure compréhension des éléments présentés dans les séries subséquentes. Les approches, les voies pour accéder aux connaissances sont multiples et tout aussi valides les unes que les autres. En ce sens, le fan qui connaît seulement l'univers du reboot connaît bel et bien l'univers de Star Trek. Ça, c'est très important pour moi. Sa xéno-encyclopédie n'est clairement pas la même que la mienne, mais cette approche-là permet de légitimer ce sous-univers-là d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire qu'il est tout aussi vrai, tout aussi réel que le sous-univers Prime et les gens qui ont du savoir qui appartiennent uniquement à l'univers alternatif ont un savoir qui est tout aussi vrai, tout aussi valable que les gens qui sont des fans de l'univers Prime. Conclusion. La théorie des mondes possibles, en particulier la notion de relation d'accessibilité entre les mondes et les sous-mondes possibles fictionnels, permet de penser l'acquisition de savoir fictionnel du très, très complexe univers de Star Trek. Naturellement, ce n'est pas une représentation idéale de la manière dont les mondes sont véritablement pensés dans Star Trek. Je cherche encore à comment illustrer l'insertion de sous-univers alternatifs au sein de cet univers-là et la manière dont le savoir peut être acquis à propos de ces univers qui sont des sous-univers, dans le fond. Considérant les plus récents épisodes de Star Trek Discovery, il me semble que ce serait absolument pertinent d'être capable de mieux illustrer les schèmes de production et d'acquisition de connaissances au sein des univers dédoublés, qui sont repensés et, comme Laurence en parlait un peu plus tôt, réécrits aussi dans le cas des voyages temporels au sein même d'un univers. Et donc, finalement, tout comme le processus d'acquisition de connaissances à propos de l'univers fictionnel, ma réflexion est toujours en chantier et je suis en fait très heureuse d'avoir pu partager ces idées-là avec vous et j'ai hâte d'en discuter possiblement après la présentation. Donc, voilà. Merci.